au rap, à la musique classique, on mélange plein de trucs. Mmh. J'aime pas trop ça, moi. Moi, j'aime bien tout ce qui est simple, les instrumentations simples, un sax. On va pas révolutionner ça, quoi. On pourrait mettre des appareils pour changer son son. D'ailleurs, Ferré le fait dans plein de chansons à lui, mmh. où il joue avec les zoos. Y a un des sax qui est encore là, hein, qui est vivant. Hein, je sais plus comment il s'appelle. Mince, son nom m'échappe, mais lui, il chante son soprano dans pas mal de morceaux avec Ferré. Et c'est très intéressant. Et c'est déjà contemporain à l'époque, hein, dans les années, fin des années 70. Hein. C'est vachement contemporain. Bon, aujourd'hui, tu vas à l'IRCAM, le centre de Boulez.
Ouais.
Bon, bah là, les mecs, c'est des fous furieux. Ils te font des trucs impressionnants, quoi. Donc moi, je dis non, je vais prendre un bugle et je vais jouer à l'unisson. Parce que c'est ce qui marque en ce moment les esprits. Comment, toi, musicien de jazz, tu fais jouer à l'unisson une mélodie aussi simple ? Je dis, mais ça vous pose un problème ? Mais non, mais c'est ce qui nous bouleverse. Je dis, mais alors, musicien de jazz, réveillez-vous ! Pourquoi vous ne le faites pas dans tous les enregistrements des années 50 qui nous ont marqués
Pour venir à une forme de simplicité ?
Alors... Ouais, mais il y a un côté super aussi, hein, quand on écoute, je sais pas moi, Miles Davis avec Coltrane justement, ou Lee Morgan avec Joe Anderson, et qui joue des secondes voix comme ça, mais qui sont pas très compliquées. Mais c'est quand même déjà très complexe pour l'époque. Tu vois, il y avait celui qui jouait la voix principale, et puis le sax qui jouait une seconde voix. On appelle ça une voix parallèle qui va faire chanter le thème principal. C'est très beau, mais ça a été développé par les musiciens classiques. Enfin voilà, c'est des techniques d'écriture, en gros. Et nous, musiciens de jazz, on s'est évertués à faire des trucs un peu alambiqués comme ça, où on rajoute des voix, et puis à la fin, ça devient des big bands où on écrit des trucs ultra complexes. Mmh. Et puis après, il y a la musique symphonique, enfin bon bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour te dire que ce qui m'intéressait, moi, c'était la mélodie au sens pur.
Ouais.
C'est pour ça que chez Ferré, en fait, il peut nous emmener très loin dans ses textes. Mais si tu enlèves les textes et que tu joues que la mélodie, c'est là qu'on découvre Ferré aussi. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas, par exemple, à ses textes, il pourrait être frappé par ce qu'il a écrit dans ses mélodies. La manière dont il a posé ses mots sur les notes. Ça me frappe, quoi. C'est-à-dire que c'est, j'ai envie de dire, c'est de la grande musique, quoi. C'est de la grande musique. Après, on pourrait, chaque arrangeur, chaque compositeur pourrait en faire autre chose encore.
Bien
et
sûr,
puis,
bien sûr, bien
voilà, Jean-Michel Defay en fait des trucs superbement réussis. Et, mais ça correspond à une époque précise. Aujourd'hui, si on disait, tiens, on va faire un truc sur Ferré, ben, ça donnerait complètement autre chose. Et, mais l'origine de ces morceaux, c'est ça. C'est pas un truc, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des documents qui traînent de Léo que j'ai découvert il y a pas très longtemps, où on l'entend jouer avant les enregistrements originaux, les maquettes. Alors, il dit ses textes.
À l'état brut.
À l'état brut, quoi. Ouais, et ça, ouais. Je trouve ça intéressant. Tu sais que j'ai tous les relevés de piano.
Ah ouais?
Ouais. Je me suis procuré d'ailleurs les éditions de la mer.
Ah, tu veux dire les partitions,
les partitions qui sont, c'est des volumes, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Il y en a jusqu'à 8 ou 10, je sais plus combien.
Ah, tu te les as procurés, ouais.
Ben, j'ai pas réussi j'ai même écrit à Mathieu pour savoir si c'était possible d'avoir même un truc,
une photocopie.
Ouais, je suis prêt à le payer et tout. Bon, j'ai jamais eu de réponse. Mais il me manque, je crois qu'il me manque le volet 7 et...
Ah, t'en as quelques-uns quand même.
Ah oui, oui.
D'accord.
Ah oui.
Okay.
Bah, en fait, comme je suis fasciné par sa musique, par le personnage, par son développement artistique, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'intéresse de... Je sais pas, comme quand tu lis un livre. Enfin, tu vois, tu t'imprègnes, tu apprends. tu apprends, ça te remue et donc tu en prends acte. Donc moi ce mec là, il est aussi important que Coltrane ou n'importe quel grand musicien de jazz. Il est même au-dessus, je dirais. Tu vois, les auditeurs, pardon hein, pour ceux qui aiment le jazz, mais si je fais un comparatif, par exemple, à un mec comme Quincy Jones,
oui,
qui a 95 ou 90 ans, là, c'est un mec très vieux. Hein. Tu sais qu'il est trompettiste.
Ah non,
à la base, c'est un trompettiste de jazz qui a bourlingué dans les années 40, qui a traversé toute la période bebop, où les gens dansaient sur cette musique de fou,
ouais,
quand même, où il y avait beaucoup de notes par mesure, beaucoup de notes qu'on ne comprenait pas, mais c'était leur rock'n'roll, on va dire. C'est une musique qui a duré très peu de temps, hein, moins de 10 ans. Hein.
D'accord.
D'accord, puisque Bird, Charlie Parker, meurt en 1955, et on dit que c'est la fin du bebop. D'accord. Eh ben Quincy, à cette époque-là, il arrête presque sa vie de trompettiste, mais il continue. On sait qu'il a participé à plein d'orchestres, mais il commence sa vie de arrangeur. Mmh. Et donc là, il devient un des arrangeurs les plus réputés au monde, puisqu'il est passé des plus grands musiciens de jazz, en passant par la musique de Starkey et Hutch, en passant par Frank Sinatra, en passant par Michael Jackson, bah, toutes les grandes bien périodes, sûr, jusqu'à Whitney Houston, en passant par... C'est inimaginable, la carrière de ce mec-là. C'est dément, quoi. Donc, t'as vu, il est très, très haut, hein,
ouais,
pour moi.
Ouais.
Bon, ben... L'association Ferré-Defaille, pour moi, elle est là. Elle est au même niveau.
D'accord.
Pareil. Il y a un enregistrement de Defaille où il dit quand Léo lui a proposé de bosser avec lui, il était avant tout pianiste. D'accord. Mais quand il lui a cédé, en gros, les droits de développer ses arrangements en toute confiance, en gros, il est devenu presque réalisateur des disques, on va dire. Presque. Après, je pense que l'autre, il arrivait, il disait, bon, là, non, je suis pas d'accord. Ou... Bref, il dit que c'était un challenge pour lui, parce qu'il faisait déjà des arrangements pour plein d'artistes avant Ferré, hein, Defaille. Et donc, on sait que pour lui, c'était un challenge d'écrire de la musique et de mettre d'abord les textes en avant. Et puis des textes quand même, c'est un peu spécial. Il y a pas un type comme ça qui traîne dans les rues, quoi. C'est tous des gens qui tapent la chansonnette comme ça. Je pense à Catherine Sauvage, parce qu'à l'époque, elle était beaucoup quasiment plus connue que lui. Et donc, les arrangements derrière, c'est toujours les mêmes trucs. C'est il y a un côté un peu plan-plan. Et Defaille dit, pour moi, c'était un challenge de suivre les mots de Léo et que les arrangements soient un peu derrière, mais quand même un peu qui viennent envelopper tout ce qu'il raconte. Et je trouve que, mais absolument tout, je pense à l'Albatros, tu vois, cette chanson mise en musique sur Baudelaire, mais c'est... Ah, j'en ai le... Ça me fait un truc à chaque fois, je me dis, mais comment ils ont réussi à aller... En fait, c'est comme s'ils avaient trouvé le Titanic, quoi, tu vois. Ils sont là, ah, putain, mais il est là, quoi. On va le remonter à la surface, tu vois. Il y a un côté... c'est dément, quoi. Je trouve qu'ils ont réussi pour moi, c'est la plus belle collaboration que j'ai trouvée. Il y en a, évidemment, dans le jazz, il y en a plein, mais qui durent aussi longtemps.
Ouais.
Oh, plus de 10 ans, c'est fantastique d'arriver à une telle complicité, tu vois, d'écrire de la musique, de dire, voilà, ça, c'est les arrangements que j'ai faits, là, on se retrouve au studio, je sais pas quand, puis roule.
Ouais.
Et en toute confiance, parce que c'est évident qu'on n'avait pas le temps de répéter. On n'avait pas le temps. Ça coûte trop d'argent de répéter. Et donc, on réunit des musiciens fantastiques, avec des arrangements fantastiques, et Léo arrive, paf! Et il se pose là-dessus, et ça ne peut qu'être fantastique, quoi.
Moi, ouais,
pour moi,
c'est
beau, quoi.
Ouais.
Donc, c'est un panthéon, quoi. C'est un truc, on peut pas ne pas faire... Donc, moi, je peux rien échanger avec les musiciens de jazz là-dessus, parce qu'ils sont pas d'accord. Parce que c'est la chansonnette.
Parce que oui, voilà, mais parce qu'ils connaissent Léo en tant que chanteur, voilà. Pour eux, voilà. C'est un chanteur et qui a chanté avec
oui,
le temps.
Puis, et il vibre comme ça, là, avec sa voix. Oh, tu vois, quand ils se mettent à l'imiter.
Ouais, mais ça, c'est au début, quoi. Après, il va laisser un peu tomber, quand même, ses vibrato à la noire.
Bien sûr. Eh, c'est pas l'âne noir.
Ça correspond
à une époque.
Oui, c'est vrai.
Ça correspond à une époque. Ouais, et clairement. Les époques, on ne peut pas les effacer comme ça. S'il est devenu. La vie d'artiste telle qu'il l'a fait devant son piano avec une gravité hallucinante, quoi. C'est grâce à ça. Tu vois, en fait, on vient de quelque part et donc on ne peut pas renier à chaque fois. Donc moi, je renie pas ma vie de musicien de jazz. Je continue à faire des projets avec les gars qui sont là, qui ont envie de le faire.
Et puis avec des solos.
Ouais, ouais. Faudra que je t'invite à un prochain concert là où je joue avec un copain pianiste qui écrit de la musique ultra complexe. Mais comme ça, tu comprendras peut-être mieux en fait le cheminement que j'essaie d'expliquer. Après, c'est très difficile d'expliquer parce qu'on c'est très profond, c'est très intime.
Bien sûr.
Voilà. Et non, mais moi j'adore en parler parce que. Même pour moi, c'est, je sais pas en fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est pour ça que ça se passe la nuit en premier et la retraite, c'est-à-dire quand je suis seul, les écoutes. Voilà, l'indigné, par exemple, le disque, ce coffret là, c'est un disque qui a dû passer. Je l'ai écouté il y a 3 jours encore.
D'accord. Donc,
tu vois,
c'est présent, quoi.
Oui, c'est extrêmement présent, mais présent comme j'ai pu écouter Coltrane à fond. Mais je dois dire qu'il y a un côté quand j'écoute Coltrane. Là, si d'un coup tu me mettais un disque de Coltrane, je partirais en transe de la même manière. Avec Léo, c'est différent. C'est pas une transe. C'est comme un truc qui est lié à mon développement. Mon développement personnel. Autour de qu'est-ce que tu veux dire? Bordel, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire juste tut-tut? Bah, vas-y, fais tut-tut. Mais ça, c'est quoi ça? C'est. Voilà, bon bah ok, les gens viennent te voir, puis repartent, oh merci, au revoir, puis voilà quoi. Mais quand les gens viennent te voir et te disent, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on a joué une chanson, voilà. Mais pourquoi on est aussi bouleversé ou pas, ou j'en sais rien, tu vois. Après le concert d'hier, il y a des gens qui ont tenu à rester avec moi. On est resté jusqu'à 3h du matin à boire des coups.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Et donc, il voulait savoir pourquoi, à tel moment, ils ont ressenti ça. Je dis, mais je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être c'est dans votre tête. Mais je sais que ce n'est pas dans leur tête. C'est parce que, au moment où toi, tu produis cette musique, tu as un cheminement dans ta tête. Tu t'as envie que la musique aille vers ça. Et donc, à un moment donné, tu fais ça et tu demandes au public de ne pas applaudir. Et tu diriges un peu le musicien pour qu'ils aillent vers là, parce que c'est là que tu as envie de les emmener. Et le public te suit. C'est aussi simple que ça. Mais quand un musicien joue et qu'il improvise, en fait, tu te prends une avalanche de notes. C'est fini. Tu ne peux plus respirer. Tu es complètement asphyxié.
Ouais.
Alors, sur un public de, allez, pour faire court, de 10 personnes, tu vas en toucher un qui va dire « J'ai compris ce que tu voulais me dire. » Les autres n'ont
mais
rien compris.
Mais il y a nécessité de comprendre ?
Ah, c'est la grande question. Bah, la musique de Léo, on va dire, allez, 25 ans avant qu'il nous quitte, c'est une musique sacrément abstraite, quoi. Enfin, c'est un musicien contemporain. Pour moi, il est non mais au sens contemporain. Quand je dis contemporain, c'est connoté, pardon.
Ouais.
Et, contemporain, c'est-à-dire que il quitte la réussite. C'est fini. On n'en parle plus. Moi, je suis un artiste. Je fais quelque chose. Si ça te plaît pas, c'est pareil. Salut. Voilà. Ben nous, on est un peu mal barrés, quoi. Les musiciens de jazz là, on est mal barrés.
Pourquoi tu dis ça?
Ben parce que on ne peut pas. Ah, ça serait trop compliqué, il nous faudrait 4 heures d'émission parce que c'est parce que c'est comment t'expliquer, on vit dans un système Il y a une certaine... on est dans un cadre, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Et donc, Léo a cassé ça. Il a cassé ça. Il a cassé Barclay, il a cassé Odéon, il a cassé tous ces machins-là. Et il s'est régalé à se dire, mais attends, mais moi, je veux un orchestre et je veux pouvoir faire une chanson qui dure 20 minutes.
Pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur des gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Le Ferry Club avec David Elmaleh aujourd'hui. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste.
Je dois dire que toutes ces écoutes que je peux faire, un peu comme des moments privilégiés où je m'accorde le temps d'écouter plusieurs fois en fait des albums que je connais par cœur. Dans l'intégrale de Barclay, je trouve qu'il y a côté, mais c'est pas possible quoi d'être aussi en phase avec une espèce de truc où il y a rien à jeter quoi. Enfin si, il y a quelques trucs. En fait globalement tout est réussi, absolument tout. On aime ou on n'aime pas, mais c'est réussi. C'est réussi.
Il y a une unité dans le
unité
dans le travail,
de son, une unité de. Il y a une qualité d'un chanteur qui est au sommet de ses cordes vocales, de sa projection de ouais. En fait, il me fait penser à un acteur quoi. Quand il dit ses textes comme ça là, moi je le vois dans la cabine. Je me l'imagine devant son micro comme ça et avec sa clope et balancer la sauce quoi. Tu vois, voilà, je vais au-delà de ce que j'entends en fait. C'est-à-dire que pour te livrer mon sentiment, je suis obligé de m'imaginer ça. Tous mes moments d'écoute. Parce que la nuit, personne te fait chier.
Qui te permettent de te projeter le mieux possible
Mon rêve, c'est de jouer la nuit. La nuit. Éteindre les lumières. D'ailleurs, je vais faire un concert à la bougie.
À la bougie,
bientôt. Bon, et donc j'ai demandé si on pouvait pas tout éteindre. Il m'a dit, ah non, on peut pas, parce que tu comprends, la ville de Paris nous soutient. Voilà. Concert éco-responsable.
Ah, très bien.
Bof. Bref. Et donc, la nuit, quand tu fermes les yeux, tu ne dors pas, hein, et que tu écoutes cette musique. C'est comme un réalisateur qui va dire, tiens, je veux cette scène. Donc, les acteurs jouent. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. En fait, tu vois, tu dois faire plutôt comme ça. Il faut que tu arrives vers ton personnage et que... Ah ouais, mais t'y es pas encore. Attends, on va essayer comme ça. Tu vois, et ouais. on essaye. Mais ça peut prendre 50 prises pour arriver à 30 secondes d'émotion. Tu vois? Et là, on a l'impression que mais c'est dégueulasse, quoi. Tout fonctionne du début à la fin. Enfin, moi, ça me rend dingue. D'autant de il y a tout. Il y a le jeu d'acteur, le jeu de la voix, les mélodies, les arrangements. Mais vous voulez pas en plus nos... Enfin, tu vois, ça me... Ouais, quoi. Merde, moi, j'aimerais bien avoir la moitié de ça, quoi.
Il y a quelque chose de parfaitement abouti qui te convient.
Moi, je trouve que c'est... Il n'y a rien à dire, quoi. Rien à dire. Ce que je ne retrouve pas après. Après et avant aussi, parce que, voilà, il est aussi... il vit quand même dans une époque où la musique française est très... Enfin, tu vois, avec son vibrato et tout ça, il est vachement imprégné par cette époque.
Bien sûr.
Voilà.
Nécessairement.
Et c'est marrant parce que toute cette époque, la 1950 et tout ça, tu sais, c'était la grande époque où les musiciens de jazz venaient en Europe et particulièrement à Paris, dans sa rue où il habitait, enfin à Saint-Germain-des-Prés, tout ça, c'est fou parce que hier il y avait le trompettiste Julien Allour qui est le frère de ma compagne. Sophie Allour, qui habite Léo cite le nom de cette rue à un moment donné dans une chanson.
Rue de Seine.
Vous passez, nanana.
Rue Visconti.
Rue Visconti. Donc lui, il habite au 23 rue Visconti. Je peux pas m'empêcher, quoi. Je ne peux pas m'empêcher que quand je vais là-bas, je me dis, mais putain, mais il est passé là, quoi. Enfin, c'est dément. Tu vois, il y a un côté mystique. Ouais. Mystique. Ouais. Parce que, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un peu d'aller chercher un peu plus loin. Après, je m'enlève de je suis pas à me dire, tiens, Léo a touché ça, quoi. J'en suis pas là.
Oui,
mais
non, sûr,
je me dis, tiens, c'est marrant. Tous les musiciens de jazz que j'ai pu apprécier ont été là en même temps que Léo et c'est des musiciens que j'ai beaucoup écoutés avant d'écouter Léo Ferré, mais ça y est, c'est quelque chose qui est passé, tu vois.
Alors que
lui, c'est incessant, il ne fait que rester.
Ouais.
Mais et je pense que quand on interroge les musiciens de variété, les chanteurs de musique française et tout ça, ils ont tous le même problème. Enfin, il les a renversés. Il a comme tout inventé, quoi. Il a chanté, et puis il a chanté parlé, et puis il a parlé. Enfin, ça, qu'est-ce qu'on peut faire après? C'est comme le jazz qui est devenu bebop, puis hard bop, puis cool jazz, puis la nanana, puis free jazz. Free jazz équivaut à parler.
Mais là, on parle d'une catégorie de musique en l'espace, donc du jazz qui va faire sa mue. Mais Léo en lui-même est quasiment une... Enfin, si je comprends tes mots, Léo en lui-même est quasiment une catégorie de musique en lui-même et va, avec les époques, changer son style, devenir cool, hard, etc.
Ouais, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais de toute façon, un artiste ne peut pas faire pendant 60 ans ou 70 ans de carrière la même chose.
La même chose, non, bien sûr. Mais il y en a qui le font.
Il y en a qui le font, effectivement. Non, mais je veux dire, bon, traîner ou je sais pas moi...
Qui le font bien, hein, d'ailleurs, hein, qui peuvent le faire bien. Hein,
mais il y a un petit côté un peu passé, quoi. Tu vois, c'est ça...
Ouais, et puis répétitif, quand même, un tout petit peu, quoi. Parce que c'est un peu toujours la même formule qu'on utilise. Le
public
qui est là, ça va bien.
Ouais, mais attention, la musique répétitive, c'est intéressant, hein. Steve Reich, moi j'adore.
Non, pas répétitif pour la
comprends.
Musique, mais dans le mode opératoire.
Dans la recherche, on cherche quelque chose et donc on sait que quand on répète les mêmes recettes, bon bah on tourne en rond, on ne progresse pas, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc moi je retrouve pas ça chez Léo, même si il a beaucoup de périodes où on entend comment il a écrit, comment il a pu écrire des centaines de morceaux. Sur le même principe.
Oui.
Mais en musique classique, on fait la même chose. Hein.
Bien sûr.
En jazz, on fait pareil. Donc bien pourquoi sûr. Pas lui?
Ouais, clairement. Et puis en plus, il n'y a rien de. Il n'y a rien vraiment de répétitif non plus, quoi, en fait, dans ce qu'il fait. Alors, si, peut-être à la base, peut-être quand on est jazz band ou quand on est musicien, on entend ce côté répétitif. Mais en même temps, il va aussi élargir grâce à ses orchestrations. Il y a la mélodie de base, mais ensuite, il y a les orchestrations, celle de Defay et puis celle de Léo en lui-même
bien sûr.
Après.
Oui, les arrangements, tout ça, bien sûr.
Super, pardon.
Non, mais c'est. Je pense qu'on est d'accord sur. enfin, le parallèle qu'on peut faire entre la mue du jazz, comme ça, à travers les époques, 1900, puis jusqu'à nos jours, en passant par toutes les périodes, machin, ouais. Léo, à lui seul...
À lui seul, voilà.
Arrive... C'est pour ça que je le compare à un Miles Davis ou à un Coltrane, s'il avait... Coltrane, en 10 ans, il a fait un peu ce que ces mecs-là ont fait. En 10 ans. C'est-à-dire qu'il a joué de la musique tonale avec Miles, il a joué dans les accords, tout ça, puis après, à la fin de sa vie, il hurlait dans le sax parce qu'il voulait plus souffler. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était Dieu, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, je sais pas si tu connais un peu ses disques.
Non, pas du tout.
Ah oui. Non. Les derniers disques, c'est flippant, vraiment flippant, parce qu'il fait appel à des procédés complètement déments, quoi. Et c'est un peu, ça, tu vois, c'est, il va prendre une note, il va jouer comme ça pendant des heures, tu vois, comme un derviche tourneur, ouais, quoi, tu vois, ouais. Qui va partir en transe, quoi. Et les batteurs, c'est un amas de sons. Tu vois, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus rien, on s'en fout, quoi. On joue, quoi. On a envie de tout éclater, quoi. On n'est pas d'accord, quoi. Voilà, on n'est pas d'accord. Et c'est génial, quoi.
Il y a un côté anard, là, un peu. Là, quand même.
Un peu, beaucoup,
hein.
Ouais,
quand même, hein.
Oui, oui, complètement. Non, mais voilà, je trouve que c'est pour ça que je suis un peu déçu de savoir que Léo n'aimait pas. Trop le jazz.
Oh, c'est difficile de dire ça quand même, de tirer cette conclusion. Franchement, il faudrait en parler avec quelqu'un. Je pense qu'il faudrait en parler avec Alaric, qui certainement sera un meilleur débatteur que moi là en l'espèce. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il a eu parfois des mots un peu ross sur le jazz, mais il a aussi donné une place à cette musique dans certaines de ses œuvres. Je pense à l'Opéra du Pauvre, qui est une œuvre assez tardive de Léo, mm-hmm. 1983, et dans laquelle le jazz est là, quoi.
Alors, je connais
le
pas
jazz
très
est là
bien
comme une manière de l'Opéra du Pauvre, c'est un procès qui est intenté à la nuit,
oui, oui.
Qui a fait disparaître la Dame Ombre. Mm. Et dans bien des personnages au cours de ce procès, mm-hmm. vont d'une manière un petit peu provocatrice vis-à-vis des autorités qui sont incarnées par le président de la cour, l'avocat général, etc., mm-hmm. vont faire référence au jazz comme mm-hmm. quelque chose qui vient à l'encontre de l'ordre établi. Mm-hmm. À un moment, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Calva, et qui dit au président du tribunal, est-ce que vous connaissez le jazz, monsieur le président? Le président répond avec son ton toujours le même, horreur de ça. Horreur de ça. Et tu vois, il y a une espèce de... Quand Léo sollicite, fait appel au jazz à ce moment-là, comme une espèce de marque qui va à l'encontre de l'ordre établi du président, qui incarne l'ordre établi, quoi. Je veux dire, l'ordre social, l'ordre, tous les ordres que tu veux, et qui lui dit... Ah, le jazz, qui lui fait dire que j'ai horreur du jazz. Quelque part, il y a une espèce de, c'est une manière de lui faire dire j'ai horreur d'une forme de liberté. Mm-hmm. J'ai horreur d'une forme de mm-hmm. ouais, de liberté que je pourrais vous accorder. Non, non, moi, je suis quelqu'un d'hyper cadré et donc forcément le jazz, je déteste ça puisque j'ai besoin de partitions, du rythme, de ça, voilà, que ce soit mm-hmm. arrêté bien précis, quoi. Ce qui peut s'entendre, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc c'est difficile de dire que Léo a vraiment eu.
Attends, ouais. Qui te dit que ce juge dans cet opéra n'est pas Léo Ferré?
Pourquoi pas?
On est d'accord. Parce que c'est lui qui met en scène. Donc il peut, à travers ses... Parce qu'il n'est pas toujours très lisible,
ouais,
Ferré.
Sûr, ouais.
Tu vois, on ne comprend pas toujours quand il dit un truc. En fait, c'est son contraire. Puis quand il dit on ne sait pas trop, quoi. Bon, bref. Moi, si je me permets de dire ça, c'est moi je serais. Puis tout ailleurs, je m'en fous. Même s'il n'aimait pas, moi, ça ne changera rien au fait que j'adore Léo. Ça ne changera rien.
Non, mais
ce que je dis simplement, c'est que tout ce que j'ai pu lire sur Ferré, tout ce que j'ai pu voir aussi, parce qu'il existe des documents que tu as sûrement vus et revus, où on le voit chanter avec ce fameux trio. Avec un piano blanc dessous, il monte sur le piano comme ça, puis il se moque du jazz. Il dit alors les jazzmen débarquent, puis en gros ils font la loi avec leur musique, quoi. En gros, c'est lui ou c'est pas lui?
Oui, bien sûr, c'est lui. Bien sûr, c'est lui. Mais c'est lui à un moment T aussi.
Bien sûr, mais non, mais ce moment T, Et 60 ans plus tard, tu as dit ça. Tu seras pas condamné, bien sûr.
Non,
parce que tu l'as dit. Ouais. Mais tu l'as pensé. Donc, on peut se dire que effectivement, à un moment donné, peut-être qu'il a voulu se séparer de Defay parce que Defay était un peu trop imprégné par cette esthétique. Bon, après, on...
Ouais,
on,
peut-être. Ouais, pourquoi
j'en
pas,
sais
ouais,
rien,
bien
tu
sûr,
vois.
Ouais, clairement.
Parce que, je veux dire, moi qui connais un petit peu, enfin moi qui m'intéresse précisément à l'écriture de l'orchestre et ce qu'a pu écrire Léo dans ses propres compositions et ses propres arrangements, ça fait pas référence au jazz. Ça fait plutôt référence à la musique classique.
Clairement.
Et ben donc on peut se dire, tiens, pourquoi t'as effacé le jazz? Parce que, je veux dire, il aurait pu développer. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des compositeurs de jazz qui font des trucs invraisemblables et qui nous font pas forcément penser à la musique des années 50 où on écrivait les accords majeurs comme ça, et puis patati patata. Enfin, le jazz a su évoluer aussi harmoniquement et avoir d'autres couleurs, tu vois.
Ouais,
et donc, j'avance un petit peu avec une certitude, mais une certitude, comment dire, c'est affectueux. C'est pas du tout. Ouais, je ça ne changera rien pour moi.
Ah non, mais voilà, bien sûr. Oh, non,
il est toujours aussi haut dans mon estime et c'est parfait. En plus, qu'il puisse critiquer les musiciens comme ça. Mais tu vois, beau saxo, tout ça. Le saxo, j'aime pas moi quand on dit saxo. J'aime pas trop
ah ouais,
ça.
Pourquoi?
Ouais, parce que saxo c'est un peu grand public comme ça, c'est un peu
de
ouais,
dédain. Un peu
non,
de...
alors pas dédaigneux, c'est l'instrument un peu aguicheur comme ça. Tu vois, on voit souvent un saxophone avec des fleurs, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Un peu, c'est naze quoi.
Ouais.
Je sais pas comment expliquer ça, tu vois.
Moi, je me rends pas bien compte parce que j'ai pas forcément, j'ai bien sûr pas ta sensibilité sur la question.
Mais non, mais l'instrument en lui-même, c'est un bel instrument, mais ouais. Le fait qu'il soit doré comme ça, il y a un côté, waouh, c'est comme
pimpant, un peu.
Voilà, tu vois, en or comme ça, waouh, ça brille. Tout le monde voudrait jouer du saxophone, mais personne n'essaie, hein.
Ouais.
Voilà, parce que sinon, puis le saxophone, c'est jazz, quoi.
Bah ouais.
Voilà. Et donc, on en revient à la musique de Léo. Toute la musique orchestrale, tu remarqueras, il y a souvent un saxo qui traîne là-dedans. Je suis prêt à mettre ma main au feu que c'est pas son idée, que c'est Defay. J'en suis quasi sûr.
Ouais.
Non, mais bon,
mais pourquoi pas. Dans les années 50, il se fait accompagner d'un saxophoniste de
c'est
temps
vrai.
En temps.
Bien sûr.
Je me rappelle, tiens, tu peux me passer le petit livret rouge? Le rouge, là.
Non, le sax, c'était... Il y en avait plusieurs, il y en avait trois. Des sax.
Dans un vieux phono d'Aristo, un phono d'avant le magnéto, j'ai passé ma tête de loup, ma poutine, et pas pour des clous, car au milieu du concert, à côté d'une valse à Schubert, un saxo costaud, le dièse à l'air, montrait ce qu'il avait plus cher. La zizique à poil, c'est fatal, ça colle à la peau, mes agneaux. Une instrumente qui n'est pas manchot, ça vous passe la main sur le genre humain. En deux coups de marteau, v'là le piano qui vous uppercute en clétude. La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes lives. Dans une vieille machine à zinzin, une machine à cliner le refrain, j'ai laissé mon Tchaïkovski et patati ma quinzaine aussi. Lorsqu'au beau milieu de l'interview, derrière une romance à dessous, un batteur patent, tambour battant, battait dans mon palpitant. La zizique à poil, c'est fatal, ça se met dans la peau, mes agneaux. Que ça soit à Pékin ou à Saint-Glinglin, ou bien je ne sais où, d'ailleurs on s'en fout. En deux coups de chorus, la Vénus qui vous met le starter à l'envers, la zizique, ça t'agrippe et te vique toutes tes nippes. Dans un vieux bastringue à tanguer des fringues et des pieds, j'ai planqué la mer calmée, j'ai dansé sur celle de traîner. Lorsqu'au beau milieu de la cota, sans savoir comment ni pourquoi, un phoque trottant trottait, content, perdant son là et son temps. La zizique à poil dans un bal, on y voit clapot, mes agnomes, clapot et les os qui jouent du xylo vont bien faire du tam-tam, c'est dans le programme. En deux coups de gratte, là le gratteur qui vous gratte ici ou ailleurs. La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes nippes. Dans une vieille rengaine à rumba, une rengaine à gainer à bas, j'ai retrouvé mes belles années, telles qu'on comptait jamais. Lorsqu'au beau mi-temps de la chanson, derrière un accord de diron, tout s'est arrêté, j'ai tout paumé, je peux plus finir mon couplet. Et la zizique à poil, c'est câlin, même si t'as que du poil dans la main. Tarazim, boum, boum, ça va faire un boum, même si les frangins trouvent que je vais pas bien. Y'a qu'une seule façon, mon mignon, de trouver la fin du refrain. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule.
David Elmalek dans le Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste.
Mais non, mais quand tu regardes les livrets, tous les livrets, il y a marqué l'orchestre de Jean-Michel Defaille. Et donc, tous ces gens-là jouaient dans l'orchestre de Jean-Michel Defaille, parce que souvent, on faisait la musique au kilomètre et on avait besoin d'un big band.
Pierre Gossez.
Gosset, voilà.
Gosset.
Eh ben, il y en a un autre, hein, il n'y a pas que lui. Eh ben, souvent, voilà, on prenait le premier alto ou le premier ténor, ou en général, l'altiste, il jouait tous les sax. Voilà, mais tu vois, ouais. Dans la... Je ne sais plus quel titre, où il y a un big band, là, un big band original, c'est-à-dire 5 saxophones, 4 trompettes, 4 trombones, contrebasse, batterie, avec une guitare, ça c'est le big band traditionnel. Bah, c'est Defaille qui écrit les arrangements, donc c'est évident. Enfin, ce mec-là a écouté Duke Ellington.
Oui, bien voilà. Sûr.
Il y a vachement ça. Et donc, mais c'était l'époque aussi. Le saxo faisait un peu l'office du violon, comme à une certaine époque. On retrouve le violon aussi hein, dans certains albums qui fait les contrechants tout seul solo.
Oui. Magnifique. Oui, enfin, qu'un peu, oui.
Voilà, donc le sax, il n'y a pas de problème, mais il est utilisé d'une telle manière, un petit peu, c'est un peu rond, tu vois, c'est un peu easy listening, voilà, ouais. Ça je veux dire, tu vois, si tu mettais Coltrane derrière, ça ne sonnerait pas comme ça, hein, parce que Coltrane, il prendrait tout le son de l'orchestre, tellement il a un son énorme, et puis un son marqué par une époque, quoi, tu vois, ouais. Là c'est très... Il ne faut pas que ça vienne déranger la voix de Léo. C'est pour ça qu'on mettait un sax un peu comme ça, langoureux.
Ouais, un peu, c'est vrai. Ouais,
tu vois
ouais,
c'est mais vrai, mais c'est pas vrai. Une critique. Hein.
Non, bien sûr.
C'est, voilà, ça correspond. Alors, je me demande si Léo, ça l'embêtait pas un peu, quoi.
Je pense qu'il serait intervenu, quand même, quoi. Hein? Parce que, si tu veux, autant sur les orchestrations de Defaille, effectivement, il aurait pu y avoir une forme de retenue chez lui. Mais avant, sur la période d'avant, avant qu'il se mette à bosser avec Defaille, enfin, à bosser avec Defaille en tant qu'orchestrateur,
ouais.
Il y avait déjà quand même un saxo qui venait de temps en temps. Bien sûr. Donc, je pense pas qu'il ait vraiment arrangé. Alors après, effectivement, c'est pas un instrument qui va être énormément présent dans la nomenclature utilisée par Léo. Et c'est pas un instrument qu'on va revoir souvent, mais quand même, il est déjà là dans les années 50.
Tu veux dire après l'époque Barclay?
Après l'époque Barclay, oui, on va pas carrément l'entendre beaucoup.
Ah, ben,
ça c'est vrai.
Enfin, si il fait appel aux orchestres italiens. De temps en temps, il y a un sax qui vient là.
Oui, mais enfin discret quoi.
Discret, voilà.
C'est pas, voilà, il tient plus la tête d'affiche comme dans d'autres.
Ouais. Non, bien sûr, mais bon, après, pour revenir à son... Est-ce qu'il aimait le jazz ou pas? Je pense que, vivant dans les... Enfin, il est né en 1916, on ne peut pas traverser toute cette époque. C'était la musique actuelle, le jazz.
Clairement, bah voilà, clairement,
donc on ne peut pas passer à côté... Enfin, pour moi, il a dû vivre avec ça, et à un moment donné, se poser la question, est-ce que mes textes et tout ça correspondent à ça, parce qu'on ne peut pas se dire que ce mec-là n'a pas vu Coltrane ou Bird quand il est venu en 1954
ouais.
À l'Olympia. Enfin, merde. C'est impossible, il n'a pas pu rater ça. J'adorerais savoir ça.
J'étais en train de me dire que si Alaric était là, certainement qu'il nous renseignerait. Ah, ouais, je pense qu'il nous renseignerait. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'organiser un débat. Léo aimait-il le jazz? Tu vois, ah et bon, puis avec la connaissance un petit peu historique et précise d'Alaric, avec nos ressentis d'individus, toi, de jazzman et puis enfin de musicien de jazz et de saxophoniste, hein, mm-hmm. je peux utiliser le
bien
terme
sûr,
là pour le
ouais,
coup.
Ouais. Ah non, mais évidemment. Bon, moi,
et voilà, je pense que ça serait intéressant parce que
en fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être créer une écoute. Alors, je ne sais pas si techniquement tu peux le faire, mais prendre par exemple quelques extraits de morceaux ouais. et qu'on se fasse une écoute et qu'on se dise tiens alors effectivement est-ce qu'il aimait le jazz ou pas, est-ce que à tel moment on peut imaginer que
ah ouais, ça serait intéressant,
tu vois,
ouais, mais avec Mathieu ça serait le top parce que Mathieu pourrait aussi nous donner
pourrait,
son ressenti
ouais. Ouais.
Alors, je pense pas qu'il serait là hein, ouais, parce que Mathieu oui. c'est difficile de le joindre hein. Tu en sais quelque chose?
Oui,
bon voilà,
moi c'était juste un email envoyé comme ça
voilà.
J'ai passé quoi donné à lui.
Mais,
hein.
mais ça serait intéressant, cela dit, vraiment, sur un plateau, une discussion comme ça ouverte un peu sur le rapport de Léo au jazz, ça serait vraiment intéressant. Parce que, par ailleurs, Léo a aussi animé une émission de radio qui
ouais.
s'appelait Musique Byzantine.
Ouais.
Dont a été... Enfin, les scripts de cette émission ont été regroupés dans un livre qui s'appelle La musique souvent me prend comme l'amour. Et ouais. donc, dans ces scripts, il y en a deux, trois qui sont dédié au jazz.
Ah.
Et il parle vraiment du jazz.
Ah, ça m'intéresse.
Alors effectivement, il a pas des mots tendres, j'en conviens.
D'accord.
Mais en même temps, il a pas des mots tendres sur l'époque mmh. et la manière dont l'époque utilise le jazz.
Ouais.
Donc il y a aussi ce regard critique quoi.
Mmh.
Et peut-être que c'est ce procédé que Léo aime pas, bien plus que la musique en elle-même. Je sais pas. Enfin voilà, il faudrait travailler les questions, mais c'est sûr qu'il y a un débat à mener là-dessus et puis des recherches à faire quoi.
En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que quand on interroge, enfin moi, parce que ça m'intéresse aussi d'écouter d'autres musiciens d'à peu près la même époque, tu vois, des Aznavour, des Eddie Mitchell, même tu vois s'ils sont complètement très éloignés,
autant,
mais ils ont pas toujours des mots, ils sont extrêmement très durs avec le jazz parce que pour eux c'est une coupure avec le public. C'est une musique intellectuelle.
Ah, d'accord.
Tu comprends?
Oui, je comprends.
Mais la musique de Léo est ultra intellectuelle.
Bah,
ultra.
Aussi, ouais.
Toutes ces poésies, mais je veux dire, si tu t'es pas fané un peu de poésie avant, enfin, si t'as pas lu des choses importantes, tu peux pas comprendre ce qu'il raconte.
Ouais, clairement.
Voilà, donc, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis contemporain, mais au sens
ouais,
de l'orchestre.
Ouais.
L'orchestre contemporain qu'on a en face de Beaubourg là
le IC
l'IRCAM.
Ah oui, d'accord.
L'IRCAM ouais. le laboratoire de Pierre Boulez. D'accord, qui est ouais. un laboratoire créé pour la musique actuelle, donc la musique pas passée, la musique qui va devenir. Donc on utilise des procédés, des ordinateurs, on fait parler l'ordinateur, un pianiste ne jouera plus de piano comme avant, enfin tu vois, on va le faire converser avec des algorithmes qui vont renvoyer des notes, enfin bon, c'est complètement délirant, le saxophone c'est plus un sax, je sais pas ce que c'est, on a changé le son, enfin tu vois. Donc il était extrêmement hostile à toutes ces musiques dites modernes quoi,
ouais.
tu vois, un peu... Entre Jean-Sébastien Bach et Ravel, il y a 350 ans de séparation, mais pas tant que ça finalement.
Mais pas tant que ça.
Pas tant que ça. Clair. Mais au milieu, il y a Arnold Schoenberg, effectivement, qui invente un nouveau système de composition.
Ouais, enfin milieu vers la fin quand même. Entre Bach et Ravel, bon, Schoenberg est quand même plus près de Ravel que de Bach, quoi.
Oui, dans cette petite fenêtre, il remet en question
ouais.
tous les principes qui nous ont aidés à nous construire et à nous parler, enfin,
ouais.
à comprendre que Do c'est Do et Ré c'est Ré, et que on apprend un enfant à faire Do, 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 Ré, Mi, Ré, tu vois.
Ouais,
et on va pas lui apprendre les concepts de la musique sérielle. Il critique ça dans une interview, je sais plus laquelle.
Ouais.
Je me demande si c'est pas avec Denise Glaser, où il se moque de Stockhausen, il se moque de tu vois.
Bien sûr,
il est très 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 dur. Et je suis pas sûr que c'est pas un peu théâtral. ça soit pas un peu théâtral au moment
peut-être
venu.
Un peu, ouais, peut-être voilà. Un peu, mais il y a aussi une forme de théâtre. Pardon. Alors là, je vais être un peu provocateur, mais il y a aussi une forme de théâtralité chez les gens qui arrivent, qui vous disent vous avez rien compris, la musique c'est en 12 tons, c'est pas en 6. Bah, il y a aussi une forme de théâtralité chez eux aussi, quoi.
Bien sûr.
Il y a aussi une forme de mais à partir de mépris, du... mais pas loin.
De toute façon, on se méprise ouais. Voilà, de camp à camp. C'est la même chose. C'est une guéguerre qui dure depuis des années et on n'en sort pas. D'ailleurs, j'ai plein de trucs à te conseiller par rapport à ça, parce qu'il y a eu, au Collège de France, là, il y a quelques années, un type interviewé, mais on va pas en parler, mais c'est hyper intéressant, parce que c'est quelqu'un en deux mots, hein, qui, au Collège de France, tu sais, c'est ouvert au public, et tu assistes à un cours, quoi, en gros. Et donc, c'est un gars qui a la chaire pendant 5 ans, je crois, et qui peut inviter d'autres gens, et il invite un pianiste, qui il va jouer les sonates, mais pour démontrer à quel point on est allé très très loin, pour démontrer au public qu'est-ce qu'est la musique sérielle. Donc, il joue les sonates de Schubert, fantastique, où chaque note, t'as l'impression que chaque note va vers telle note. Et ensuite, il joue une sonate d'Arnold Schoenberg. Et donc, il se tourne vers le public, il dit « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, bon, les gens, évidemment, ils sont plus sensibles à la musique de Schubert. Et il dit « Ok, très bien, je vous rejoue la même chose et on en reparle. » Et il rejoue la sonate, tac, 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 et il rejoue la sonate de machin. Et il demande « Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Alors, bah, les gens, bah, ils disent « C'est la même chose, vous avez joué la même chose. » Ah, il dit « Ah, tiens, c'est marrant. » Alors, dans la deuxième version, la sonate de Schubert, j'ai mis 2 pains. Vous les avez entendus ? Ah oui, on les a entendus, mais bon, ça passe parce qu'on se dit que vous étiez un peu stressé, quoi. D'accord ? Et dans celle d'Arnold Schoenberg, j'ai mis 54 pains. Vous les avez entendus ? Pour nous, c'est passé comme la première fois. Inutile de dire que, en gros, il essaie de dire que la musique sérielle s'est trompée. En fait, comment on réceptionne cette musique ? Mais en fait, elle est tellement inaudible à l'auditeur qu'en fait, il ne confond pas la fausse note avec la bonne. Et c'est hyper intéressant, ouais. Tu vois ? Et donc,
c'est dur, hein ? C'est rude.
Ah, c'est très rude.
Ah ouais.
Mais non, ce que ça veut dire, c'est que quand tu joues Schubert, c'est tellement une musique millimétrée que la moindre fausse note, tu es cuit. En fait, tu seras condamné, quoi. On a vu, tu t'es trompé, tu vois. Et donc, elle est tellement précise qu'elle ne pardonne pas.
D'accord.
Telle note appelle telle note. Mais la musique sérielle déstructure tellement l'oreille qu'on a eue d'une certaine culture passée qu'en fait, bah, tu peux jouer n'importe quoi, ça va marcher. Puisqu'on n'a pas de repère.
Ouais, mais du coup, enfin.
Mais c'est intéressant.
C'est intéressant, et puis ça désacralise un tout petit peu la chose, quoi.
Aussi. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis, quand tu écoutes l'œuvre de Ferré, en fait, il y a un côté très classique chez lui. Il y tient, et il ne veut pas casser ça. Alors que son texte est totalement contemporain au sens de l'IRCAM. C'est-à-dire que il va chercher des trucs, mais. En fait, pour moi, c'est un chanteur, s'il était encore vivant, on aurait pu le mettre dans les expériences que l'IRCAM font. Pas pour ses performances de vocaliste, mais pour ses performances de texte.
Et puis le mariage avec sa musique.
Exactement. Mais on pourrait faire les deux. Mais ses textes sont tellement éloignés de son écriture musicale à ce moment-là. Enfin, je sais pas si on parle des mêmes périodes. Mais en fait, il est pour moi... Il y a un côté contemporain au sens moderne, quoi. C'est très moderne, avec un orchestre qui est resté 100 ans en arrière.
Hyper classiciste.
Classique.
Hyper
voilà. Classique, en fait, on fait des nappes, on crée des accords majeurs, des accords mineurs, puis très peu d'accords de passage. Ça reste des ambiances, quoi, qui viennent mettre le texte un peu en avant. Mais attends, en musique contemporaine, on peut faire des trucs extraordinaires. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça que je me demande si, par rapport au jazz, il n'avait pas un petit complexe de pas d'infériorité, parce que voilà, il n'a rien à leur envier. Un petit complexe du musicien de jazz qui arrive avec son saxo, là, tac, il sort son sax, et il joue à 300 à l'heure, avec des tempos invraisemblables. Personne ne peut jouer des tempos rapides comme ça. Enfin, Bird, il pouvait jouer à 400 à la noire. C'était impressionnant. impressionnant. Il est mort à 35 ans. C'est, je veux dire, pour maîtriser cet instrument, il faut une vie. Bon, bah lui. Voilà. Bon, avec le jazz, je pense qu'on peut. On peut s'arrêter là parce que c'est.
On va pas tarder à effectivement s'arrêter là. Juste, est-ce que tu as eu l'occasion de le voir en concert, Léo ?
Non,
jamais.
Bah, parce que comme je te disais avant, j'ai commencé la musique très tard, moi.
Mais même. Je veux dire, t'as commencé en 90 la musique, à peu près.
Ouais. C'est ça.
T'es de 70, bon voilà, je le dis, hein, comme ça, c'est fait. T'es de 70, t'as commencé en
90.
Donc effectivement, c'était un peu, la fin.
C'est la fin. Ouais, je me souviens d'une émission.
Mais pour autant, excuse-moi de t'interrompre, mais pour autant, tu connaissais déjà sa musique
Pas complètement. Non, je la connaissais pas. Je l'avais entendue, via mais mon frère et tout ça, mais pas plus que ça. Je me souviens juste d'être devant la télé dans les années 80. Fin des années 80, peu avant, peut-être 84-85, il donnait pas un spectacle à Paris où il est seul justement avec son piano là. Et ben je me souviens d'une interview qui dure très longtemps où il fume sa clope, il est complètement ailleurs. On a l'impression qu'il est déjà barré quoi. Et je me souviens de je sais pas si Arte existait à cette période.
Non, je pense pas non.
Alors c'est en tout cas, je me souviens d'une émission qui a duré au moins bien 30 minutes. À l'époque, c'était rien, 30 minutes, ça pouvait durer longtemps. Mais une émission qui dure longtemps, il était avec son cuir et tout ça. Et je me souviens être planté devant la télé. Donc, je ne faisais pas de musique. Hein. Et je me souviens d'être fasciné par ce type, avec ses cheveux comme ça, et la fumée, là, le piano, tu vois, il y a un côté. Je ne sais pas si tu connais Thelonious Monk.
De nom. Plus que
bon,
ça,
voilà. Donc Monk, c'est un monument dans le jazz. C'est un monument, mais c'est aussi un personnage.
D'accord.
C'est un mec un peu pas bien dans sa tête, quoi. Tu vois, qui a des troubles du comportement, un peu taré, moi je dirais, mais dans le bon sens. Mais et donc il a un peu ce truc là. Ce mec qui arrive là, comme ça, qui s'adresse à la caméra. Et donc, j'étais fasciné par cette émission-là. Je me souviens, j'avais regardé ça pendant un bon moment. J'étais là,
Et ça t'a pas donné envie d'aller au concert ?
Mais je pouvais pas y aller, j'étais tout jeune.
Bon, 20 ans, on peut y aller. Ou 19, 18, 17. Bon.
Ah, mais non, là, je te parle de ça, c'était avant. En 84, moi, j'avais pas 20 ans.
Oui, non, effectivement, ouais.
Tu 84, vois non. Donc, non. Non, effectivement, quand j'ai eu 20 ans et qu'il a fallu apprendre la musique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai travaillé comme un forcené pour me hisser dans ce milieu. Parce qu'à 20 ans, on est déjà professionnel. Tu vois ?
Ouais, bien sûr.
Tous les gens qui ont accompagné Ferré, c'était des gens, ils avaient 25 ans.
Ils avaient déjà une carrière derrière eux, quasiment.
Bien sûr, ils avaient fait le CNSM, ils avaient fait le Conservatoire de Paris, c'était des musiciens. Moi, à 20 ans, j'avais rien, zéro. Il a fallu travailler. Tu vois, j'arrivais d'un autre pays, il a fallu. Quand j'ai dit à ma famille, je vais devenir musicien, c'est pas la même histoire, hein. Donc je pouvais pas penser à aller voir Léo. D'ailleurs, je suis pas quelqu'un de. J'étais trop jeune et je suis pas quelqu'un qui fait souvent au concert.
Ah bon, là ça explique mieux. Parce
ouais, que... j'ai du mal, moi, à aller au concert parce que c'est très intime, quoi, un concert. Je préfère jouer, moi, que d'écouter. Tu vois ?
Ouais, bien sûr, ouais. Bien
voilà,
sûr, ouais.
Mais il faut vraiment me tirer pour m'emmener. Hein.
D'accord.
Okay. Parce que c'est très intime, c'est très. J'ai pas envie d'être dans cette performance, moi. J'ai pas envie de voir quelqu'un qui se surpasse. J'ai envie de prendre tout cru dans la gueule. Pardon.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, j'ai envie de me prendre un.
Non, mais. Ça aurait pu, parce que comme l'un des premiers disques qui te fait connaître Léo, c'est un disque en public, d'après ce que tu m'as dit. Tu vois, ça aurait pu aussi déclencher cette envie d'aller vérifier.
Que, oui, d'aller vérifier, mais dans ma famille, c'était pas. D'accord. C'est pas notre culture. La d'accord. musique, c'est pour les autres. C'est pas pour nous.
D'accord, okay.
Tu vois
ouais.
Voilà, donc moi j'ai grandi dans un. Mon frère a ouvert les portes. C'est lui qui a ouvert les portes de la musique parce que voilà, les parents n'étaient pas d'accord. C'est que, voilà, la musique c'est pour les riches, quoi.
Ouais.
Et le reste dans votre sexe, Miss Knight.
Mon sexe,
et fantastique. Il multiplie par tes idées les charmes de l'angoisse quand ça doit arriver. Et puis des fois, ça casse. Comme les mecs qui vont tout droit vers l'aventure et qui ne savent pas s'étendre loin des magazines. Quand la pin-up vaincra l'outrage et se retrouvera comme un con au parking. Et se retrouvera comme un con au parking. Mon sexe et de musique. Et les saxos vibrants ne vibrent pas pour rien. Ils inventent l'amour dans les blues d'attitude. Quand le soleil fauche son crêpe au crépuscule, ça fait le crêpe sur le cul et ça ranime tous les fuseaux branchés sur l'ombre. Les musiciens, alors donne-le là et sombre. Les musiciens, donne-le là, alors et sombre. Mon sexe est du silence. Dans le tohu-bohu des maisons endormies, avec les rêves solennels au fronton de la mort. Et ma copine alors s'éclate et puis s'endort. Et ses bras assassins qui étreignent le vide. Je prends ma gorge bleue quand je vois des oiseaux. Je prends mon arc-en-ciel quand je deviens la nuit. Ils ne comprennent pas. Ils volent les oiseaux. Les marins me devinent et je sens la marée leur couler du jusant. Comme un suc anonyme dans les bars, je les tiens perchés devant l'abîme. Cette absence me les fait mien et je les aime. J'ai le ventre de toutes les femmes dans la tête. Et quand j'ai mal à la tête, je les vois toutes arriver. Leurs culottes ajourées comme un chagrin d'optique. Je suis le candidaton de la passion de tous les trottoirs du monde. Dans ces villes où les Chinois parlent anglais, de préférence. Parce que les culottes chinoises ont les yeux plissés. Et quand elles regardent, ça fait du bruit chez les mecs. Ça part de travers. Avec l'accent. Je me demandais alors pourquoi les femmes s'allongeaient pour se faire accorder le chinchilla. Chez moi, on est cimenté. Enfin, avec notre ciment à nous. Ah, viens par là, petit, que je te la raconte, ma vie d'outre là-bas. Quand ça te prend tout doux et que ça flanche et que ça part et que ça monte. Les fruits, ça n'a vraiment rien à voir avec nous. J'étais la parallèle obscène sur la dune quand descendait de mon perchoir un bout de lune accroché à je ne sais quoi de primitif. Peut-être un carré d'as, une nuit de fortune. Viens, je te donnerai le sourire des filles qui vont à l'aventure avec un peu de sexe à pile. Et puis, je ne sais plus, peut-être un arc-en-ciel du côté de là-bas, quand les forêts s'épilent. Mon sexe est fantastique. Mon sexe est de musique. Et les saxos vibrants ne vibrent pas pour rien. Ils inventent l'amour dans les blues latitudes. Quand le soleil fauche son crêpe au crépuscule, ça fait le crêpe sur le cul et ça ranime tous les fuseaux branchés sur l'ombre. Les musiciens alors donnent-le là et sombre. Mon sexe est du silence dans le tohu-bohu des maisons endormies avec les rêves solennels au fronton de la mort. Et ma copine alors s'éclate et puis s'endort. Et ses bras assassins qui étreignent le vide. Je prends ma gorge bleue quand je vois des oiseaux. Je prends mon arc-en-ciel. Je deviens. Ils ne comprennent rien. Ils volent les oiseaux. Les marins me devinent. Et je sens la marée leur couler du jusant comme un suc anonyme. Dans les bars, je les tiens perchés devant la vie. Cette absence me les fait miens. Et je les aime. Ah, viens par là, petit. Je te la raconte. Ma vie d'outre là-bas. Quand ça te prend tout doux. Mon sexe est de musique.
et les saxos vibrants ne vibrent pas pour rien. Quand le soleil fauche son crêpe au crépuscule, ça fait le crêpe sucu et ça ranime. Les musiciens alors donnent de la et sombre.
David Elmalek, tu sors cet album qui s'intitule Traveling chez Sunset Records, qui est sorti le 14 avril dernier. Mm-hmm. Tu es accompagné par Alex Tassel et Pierre de Bettman.
Oui.
Ce disque Traveling est fait d'un certain nombre d'adaptations de chansons, parmi lesquelles Pépé de Léo Ferré. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là, peut-être.
Ouais. On va s'arrêter là.
En tout cas, un grand merci, David, pour ta visite. Et puis, rendez-vous pour un prochain plateau pour parler du jazz. Léo, le jazz et lui.
Ah, quand tu veux.
Bon, la dernière chose que j'ai à te demander, c'est de choisir la chanson avec laquelle nous allons nous quitter.
Écoute, alors, cette chanson, comment elle s'appelle ? Plus jamais.
Ouais. Voilà. Ah, bon, pourquoi pas, ouais, avec plaisir. David Elmalek, donc nous terminons avec Plus Jamais. Un grand merci pour ta visite.
Ben, merci à toi.
Et au plaisir de se recroiser ici ou là.
Carrément.
À bientôt.
À bientôt.
Tous ces bijoux qui brilleront sans toi quand tu ne seras plus là. Tous ces voyous qui ouvriront leurs bras à d'autres gosses qu'à toi. Tous ces baisers qui font des nuits cousues dans de drôles de tissus. Toutes ces pensées que l'on voit dans la rue aux bras des inconnus. Tu veux tout ça maintenant, avant que tu ne sois trop vieille, avant qu'on ne t'emporte derrière la dernière porte qu'on fermera sur tes merveilles. Maintenant, les plaisirs qu'on achète avec des mains de femme, les sourires que l'on prête aux objets qu'ont une âme. Maintenant, les voyages en voiture, au volant d'une romance, les parfums, les fourrures, pour pas que s'enrhume la chance. Maintenant, les beaux calendriers où le soleil s'allume quand le soir va tomber dans un lit de fortune. Maintenant, tous ces serments que l'on tient pour la vie, pour une heure, pour la nuit, tous ces printemps dans le milieu du lit et la rose qui luit. Tous ces plaisirs qui allument des feux aux quatre coins des yeux. Tous ces plaisirs qui vont toujours par deux comme les amoureux. Tu veux tout ça maintenant, avant que tu ne sois trop vieille, avant qu'on ne t'emporte derrière la dernière porte qu'on fermera sur tes soleils. Les chansons que l'on chante avec des cris de femmes, quand les violons s'enchantent en vous donnant leur âme. Maintenant, les orages d'amour sur des poitrines nues, quand on va faire un tour au bout d'un inconnu. Maintenant, en attendant, inquiète et pleurant sous les rires, qu'une horloge indiscrète vienne tout bas te dire plus jamais.
la fin du Ferré Club
sur Radio Liberté.
À la semaine prochaine.
Au plaisir de vous revoir.
Le môme devant l'école qui recolle ses dents à coups de lapidole. Jamais on le saura. K.O. pour ses 20 piges dans le ring de ses draps en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le môme de la Courneuve, qu'a volé au Prisu un gros œuf et un bœuf. On le saura jamais. Pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège.
La forêt qui s'élance au ciel comme une verge, les serments naufragés qui errent sur la berge, les oiseaux dénoncés que le chasseur flamberge, les diamants constellés qui fuient les pâles couches, tous les yeux de la rue qui crèvent sur ta bouche, le pavé que tu foules et ma voix que tu touches, les amants accolés muets comme la cire, les culottes des femmes où le monde se mire, les fauves repentis qui rendent les martyrs, le ventre des pendus qui coule des potences, les noces pathétiques où les larmes sont denses, les émigrants qui n'ont jamais le pain d'avance, les mains transfigurées qui règlent la tzigane, Baudelaire et Shakespeare au chevet des profanes, les chevaux condamnés à leur dernière aboie, la voix pour commander à 1000 couturières, le lit avec le Parthénon comme litière, le catéchisme de la joie, la vie entière. Des violons barrissant les complaintes futures, des tonnes de crachats sur la criticature, le vent du large et des bûchers pour les clôtures, des langues pour parler aux chinois faméliques, des poumons pour souffler au ventre des phtisiques, des javas pour brouiller les chants patriotiques. Le ruisseau qui jouit jusqu'à aux centrelles, le malheureux, le chien qui meurt, l'homme qui crève, le sang des femmes qui sont mortes sans un rêve, les cheveux élagués qui cherchent des caresses, le remords amical du prêtre qui confesse, les yeux des tout-petits riboulants de tendresse, l'orgue de la nature souffle de violette, les rendez-vous mystérieux sous la voilette, les numéros que tu voulais à la roulette, les portes de secours battant sur les étoiles, les vendredis des Robinson des capitales, la boussole des veuves aveugles sous leur voile, le vain espoir des mitraillés sous la mitraille, la poitrine qui bat sous les pâles médailles, les Jésus désertant le fruit de tes entrailles, les dentelles flottant au nez de la misère, le loup blessé à mort quand regarde se taire, le chant du coq et le silence de Saint-Pierre, les cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes, les gens de bien qui ont désintégré l'atome, le capital qui joue dès notre royaume, et puis le majuscule ennui qui nous sclérose, mon pauvre amour, car nous pensions les mêmes choses en attendant que l'ange nous métamorphose.
petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse au papillon. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'emmène à la chasse au papillon. Cendrillon ravi de quitter sa cage, mais sa robe neuve et ses potillons, et bras dessus, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage, c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse au papillon. Sur sa bouche en feu, qui criait, sois sage, il posa sa bouche en guise de baillon, et fut plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.
Le soleil est rare et le bonheur aussi, l'amour c'est garoulon de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvre sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvrent sur l'infini.
Phrase.
Quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés, en une plage pour deux enfants fidèles, en une maison musicale pour notre claire sympathie, je vous trouverai. Qu'il n'y ait ici-bas qu'un vieillard seul, calme et beau, entouré d'un luxe inouï, et je suis à vos genoux. Que j'aie réalisé tous vos souvenirs, que je sois celle qui sait vous garrotter, je vous étoufferai. Quand nous sommes très forts, qui recule? Très gais, qui tombe de ridicule? Quand nous sommes très méchants, que ferait-on de nous? Parez-vous, dansez, riez. Je ne pourrai jamais envoyer l'amour par la fenêtre. Ma camarade, mendiante, enfant monstre, comme ça t'es égal, ces malheureuses et ces manœuvres et mes embarras. Attache-toi à nous avec ta voix impossible, ta voix, unique flatteur de ce vil désespoir. Une matinée couverte en juillet. Un goût de cendre vole dans l'air. Une odeur de bois suant dans l'âtre. Les fleurs rouillies. Le saccage des promenades. La bruine des canaux par les champs. Pourquoi pas déjà les joujoux et l'encens? J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Le haut étang fume continuellement. Quelle sorcière va se dresser sur le couchant blanc? Quelles violettes frondaisons vont descendre? Pendant que les fonds publics s'écoulent en fête de fraternité, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages. Avivant un agréable goût d'encre de Chine, une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. Je baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit et tourné du côté de l'ombre, je vous vois, mes filles, mes reines.
Baby-Doll. Les dingues et les paumés se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue baïa, essayant d'accrocher un regard à leur cou. Lorsque leur tuba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en main. Ils sont comme des joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les paumés s'arrachent leur place à tas et se greffent à pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka, en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leur fibre nerveuse. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazours, mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
Qui court, mais l'incertain rôde dans les îles, ses grelots grincent comme les dents du doute, et les vigiles du temps surveillent les sabliers. Là-bas, l'espoir craque comme un vieux glacier qui se fendille. À force de hurler contre les hygiaphones, on amplifie la voix, on élargit le souffle et ça résiste quelque part dans les viandes. Ça se révolte et revendique tout l'espace dû, l'espace gagné sur l'horreur et l'humiliation, sur l'injustice flagrante et quotidienne, sur la morgue et le cynisme des chefs, des petits chefs et des sous-chefs. On attend pourtant que se lève à l'horizon le temps attendu soleil des mots. Alors, les grands navires de l'imaginaire appareillent vers les estuaires, les océans, les étoiles, parmi les embruns du siècle, les coups de tabac et les belles éclaircies quand tout le ciel s'ouvre soudain comme un poème infini. Vivre, c'est encore boire à la source, au goulot des utopies, des cépages d'avenir, et sentir dans son sang des danseries d'être et la chanson du désir. Quand pétille l'effervescence, les feux jamais éteints de la fraternité, c'est courir dans la laine bleue des gelées blanches vers les linges frais de tous les matins du monde, qui fume dans les buanderies ensoleillées. C'est alors qu'une évidence monte et fleurit. Je chante, donc je suis. Et quand je suis, j'écris. Et quand j'écris, je vis.
Thank you. tête, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi, bon alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré? Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Carlo, c'est ça le manque de peau. La Cla Jaguar fait une embardée et droit devant la vla qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler.
Se libère.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Le vent
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 18e émission pour cette année 2023 et nous continuons évidemment après ce 1er mai où il y a eu du monde dans la rue. à mener nos combats contre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est avec Sylvie, ce soir, à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Voilà, l'émission, ben, c'est tous les mercredis, entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre sur notre blog, émission, trait d'union, femmeslibres.blogspot.com. Et vous savez bien que Femmes Libres, elles sont nombreuses. Donc il y a des S à Femmes et à Libres. Donc émission, trait d'union, femmeslibres.blogspot.com. N'hésitez pas à aller sur notre blog pour réécouter les émissions, avoir le programme. Pensez aussi à nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. 4 temps dans cette émission. Féminicide par compagnon ou ex, c'est notre rubrique de démarrage. De Ève à Philomène, sans oublier les autres, ça sera le portrait d'Hélène Keller. Et vous verrez à quel point c'est un portrait très intéressant. Ensuite, nous recevrons Mamoun. C'est une plasticienne qui veut créer des territoires zéro sexisme. Et nous terminerons par des communiqués, des informations, des rendez-vous. Vous avez donc le programme et on démarre par la rubrique Féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au
Pakistan. Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
Voilà, nous sommes encore à 37. C'est beaucoup trop, hein, ce chiffre-là. On n'a pas répertorié d'autres féminicides cette semaine, mais par contre, il y a des affaires qui rebondissent de l'année 2022. Alors, le chiffre 37, c'est toujours le chiffre recensé dans les médias sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon, et cela uniquement.